Eh bien, on va continuer à s'amuser avec un sujet ô combien passionnant, l'économie. Alors, bonjour à toi, Robin, qu'as-tu à nous raconter ?
Bonjour, Rémi. Alors, je vais commencer par un chiffre comme d'habitude, 0,25 points. Ça correspond à l'augmentation du taux d'intérêt directeur décidé par la Fed, la Banque centrale américaine, jeudi dernier. Bon, je ne sais pas trop si ça vous parle quand je dis taux d'intérêt directeur, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Je vous disais lors de ma chronique de la semaine dernière sur En ce moment qu'une banque centrale, son rôle, c'était de gérer la quantité d'argent qui circule dans l'économie. Et pour réguler cette quantité d'argent en circulation, les banques centrales peuvent créer ou détruire de la monnaie.
Oui, tu disais par exemple qu'en rachetant des dettes publiques, la BCE apportait de l'argent neuf dans l'économie et de l'argent qui n'était pas là avant.
Oui, effectivement, c'est ça le principe. On apporte de l'argent qui n'était pas là avant. Sauf que ce que je vous avais expliqué à propos de ce principe qu'on dit de quantitative easing, ça s'applique à un instrument de création monétaire qu'on dit non conventionnel. C'est pas de ça qu'on sert normalement. D'habitude, les banques centrales créent de la monnaie en passant par l'intermédiaire des vraies banques, c'est-à-dire des banques commerciales. BNP Paribas, HSBC, Crédit Agricole, on les connaît. En fait, ce sont ces banques-là qui ont un pouvoir de création monétaire et les banques centrales sont censées contrôler ce pouvoir.
Des banques privées ont le droit d'imprimer des billets.
Non, elles n'ont pas le droit d'imprimer des billets, mais ça ne les empêche pas de créer de la monnaie dématérialisée, des chiffres sur un compte en banque. Normalement, le rôle de la banque, c'est d'être un intermédiaire financier. Elle prend de l'argent de ceux qui veulent l'épargner et elle le redistribue en le prêtant à ceux qui ont besoin d'argent. Sauf que voilà, parfois, il va y avoir quelqu'un qui va se pointer à la banque en demandant un prêt alors que personne n'a épargné, c'est-à-dire que personne n'a mis dans les caisses de la banque de quoi financer ce prêt. Mais la banque, elle sait qu'il y a des gens qui vont bientôt aller déposer de l'argent. Donc elle ne s'en fait pas trop, elle prête de l'argent qui n'existe pas.
Et comment elle fait pour lui donner de l'argent qui n'existe pas ? Enfin, le prêt qu'il fait, il va bien servir pour payer quelque chose ?
Oui, mais elle lui donne quand même quelque chose pour payer. En fait, elle ne le dit pas vraiment comme ça, mais c'est un peu comme si elle lui donnait un papier avec écrit « Bon pour 1000 euros à retirer à HSBC ». Imaginons que le mec qui demandait de l'argent va acheter une voiture avec ça. Eh bien, la banque, elle espère que d'ici à ce que celui qui vendait sa voiture arrive pour retirer ses 1000 euros, il y a quelqu'un d'autre qui soit arrivé pour déposer 1000 euros. Donc, elle lui donnera les 1000 euros qui ont été déposés dans ses caisses.
Et si celui qui avait déposé 1000 euros décide finalement de les récupérer ?
Eh bien, la banque, elle espère qu'il ne le fera pas tant que le premier mec, celui à qui elle avait prêté, aura remboursé les 1000 euros. Parce qu'une fois qu'il l'aura fait, elle aura de récupérer 1000 euros qu'elle pourra rendre à celui qui les avait déposés. La boucle est bouclée, et ici, il y a destruction monétaire. Mais bon, on voit bien que le système bancaire repose sur un équilibre de rotation de l'argent qui est assez fragile. Et dans les faits, ça marche pas mal, parce que les banques gèrent énormément d'argent. Du coup, les transactions de 1000 euros, c'est pas grand-chose, et ça fonctionne bien.
Ok, et du coup, maintenant qu'on sait ça, quel est le rapport avec les banques centrales, Robin ?
Eh bien justement, parfois les banques commerciales, comme elles jouent sur un équilibre précaire, elles ont peur de prêter de l'argent qu'elles n'ont pas. Mais elles veulent quand même en prêter. Du coup, elles vont se refinancer en accumulant des stocks de vrai argent, pas de l'argent qu'elles créent. Pour se refinancer, elles peuvent emprunter à d'autres banques, mais surtout elles peuvent emprunter à la banque centrale. La banque centrale, elle est ce qu'on appelle prêteuse en dernier ressort. Elle va prêter autant d'argent que le veulent les banques du moment que c'est à très court terme. Les banques doivent rembourser sous quelques jours. Ce prêt, il est soumis à un intérêt, c'est-à-dire qu'on rembourse plus qu'on emprunte, et donc c'est coûteux pour les banques. En fixant le taux d'intérêt, en le relevant jeudi dernier, par exemple, la Fed peut contrôler indirectement l'activité des banques. Si le taux est élevé, les banques vont moins se refinancer, et finalement, elles vont moins prêter, et donc elles vont moins faire de création monétaire. On peut l'utiliser, par exemple, si on a peur qu'il y ait trop d'inflation.
Mais il n'y a pas d'inflation aux États-Unis. Pourquoi la Fed relève les taux d'intérêt à ce moment-là ?
Eh bien, en fait, elle l'utilise actuellement pas tant comme un instrument de lutte contre l'inflation, mais plutôt essayer de revenir à une situation normale. En fait, après la crise des subprimes de 2008, la Fed avait énormément baissé son taux d'intérêt directeur, à tel point qu'il atteignait quasiment 0%. L'augmentation de ce décembre 2016 correspond à la deuxième augmentation en 10 ans. Si la Fed ne le faisait pas avant, ce n'était pas tellement parce qu'elle avait peur de la déflation, mais plutôt parce qu'elle avait peur que ça ait un impact sur la croissance. Si vous m'avez bien suivi jusque-là, en effet, augmenter le taux d'intérêt directeur, ça va baisser le nombre de prêts. Et si on baisse le nombre de prêts, il y a moins de consommation. Et s'il y a moins de consommation, les producteurs vendent moins. Et donc, ils produisent moins. Et donc, il y a moins de croissance. Comme en ce moment, l'économie américaine va bien, on peut augmenter le taux d'intérêt sans risque pour la croissance. Et ça nous permet en outre de pouvoir les baisser à nouveau plus tard si on doit stimuler l'économie. La décision de la Fed peut s'interpréter comme ça. C'est une préparation face à l'incertitude qui va arriver avec le mandat de Trump. Donc on se retrouvera dans quelques mois pour en rediscuter et voir ce qu'il en est. Et en attendant, je vous invite encore à écouter l'épisode numéro 5 de Tina, où Lino et Quentin nous expliquaient très bien ces rouages du système monétaire.
Eh bien, Lino et Quentin, dont tu reprends donc la suite avec cette chronique économique. Et merci beaucoup, Robin, pour cette chronique, encore une fois, particulièrement instructive sur les petits rouages de l'économie.